Vous écoutez On lit pour vous.
Santé mentale en situation minoritaire. Plus de barrières pour accéder aux services. Un texte de Marine Ernoult, paru le 25 mai 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. L'Institut d'été sur les collectivités sur et en santé au Canada Atlantique célèbre ses 20 ans cette année. Dans un contexte anxiogène dans lequel les guerres succèdent aux catastrophes naturelles, l'organisme appelle à mettre la santé mentale des jeunes au cœur de la société. Depuis 20 ans, l'Institut d'été sur les collectivités sur et en santé au Canada Atlantique milite pour que le bien-être mental soit pris en compte dans toutes les politiques. En août, l'organisme organise son forum annuel à Charlottetown, l'occasion de parler de l'importance de la collaboration pour résoudre les problèmes de santé mentale. Ariane Melara Orellana, membre du conseil d'administration, évoque les combats de l'Institut et les enjeux de santé mentale en situation minoritaire. Collaborer pour résoudre les problèmes de santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Au sein de l'Institut, nous nous considérons vraiment comme un catalyseur de collaboration. Nous existons pour rassembler des experts, des personnes qui font partie de la communauté, afin qu'elles discutent de la santé et du bien-être mental, de la collectivité, des nourrissons, des enfants et des jeunes. On veut faire ressortir le travail qui se fait dans les petites communautés à travers le Canada Atlantique pour créer de nouveaux liens entre les organismes locaux. On a d'ailleurs organisé des ateliers communautaires à cet effet. On tente aussi d'influencer les politiciens et les gouvernements au niveau fédéral, provincial, municipal, pour renforcer les politiques en faveur de la santé mentale des jeunes. La santé mentale doit être incluse dans toutes les politiques et placée au centre de toutes les décisions. Il faut évaluer l'impact sur la santé des lois et projets en matière d'éducation, de logement ou de transport. Il faut également prendre des mesures dans des secteurs autres que celui de la santé, comme la petite enfance, le transport, le logement ou l'insécurité alimentaire, qui auront des retombées positives sur la santé mentale des jeunes. Notre message clé est d'agir en amont, de prévenir et de ne pas s'intéresser aux problèmes de santé mentale seulement une fois qu'ils apparaissent. Agir en amont implique une mobilisation de l'ensemble des gouvernements et de la société. Il faut une plateforme de discussion multilatérale où tous les acteurs se retrouvent. L'Institut existe depuis 20 ans. La perception de la santé mentale a-t-elle évolué entre-temps? Les problèmes sociaux demeurent les mêmes. On voit qu'on n'accorde pas encore suffisamment d'importance au bien-être mental et social, comme on le fait pour l'aspect du bien-être physique. On met encore trop l'accent sur l'individu et pas assez sur les facteurs communautaires et les liens sociaux, qui sont pourtant essentiels et peuvent aider à protéger la santé mentale. L'engagement communautaire est vraiment un vecteur d'espoir important dans notre société. Nous voulons renforcer cet engagement d'une génération à l'autre. Il y a tout de même eu de grandes avancées. Au tout début, l'Institut se concentrait sur l'amélioration de la santé mentale en lien avec la prévention de la criminalité. Aujourd'hui, la promotion de la santé mentale dépasse largement ce cadre. Les jeunes francophones en situation minoritaire peuvent-ils avoir une santé mentale plus fragile? Le fait de vivre dans une situation de contexte minoritaire, ce n'est pas, selon moi, un facteur de fragilité. Mais nous habitons dans des systèmes qui sont toujours versés vers la majorité, qui travaillent beaucoup en faveur de la majorité. Donc, les jeunes qui se retrouvent dans une situation de contexte minoritaire, c'est certain qu'ils vont trouver plus de barrières pour accéder aux services de santé mentale dont ils ont besoin dans leur langue maternelle. Et en anglais, ils ne vont pas forcément avoir le langage pour exprimer ce qui les touche au plus profond d'eux-mêmes. C'est pour cela que c'est vraiment important d'avoir, dans toutes les politiques mises en place, la lentille des personnes qui habitent dans des situations de contexte minoritaire, que ce soit au niveau de la langue, de la culture, de la race ou de l'ethnicité, pour que leurs besoins et leur bien-être soient pris en compte en amont. C'était « Santé mentale en situation minoritaire, plus de barrières pour accéder aux services », un texte de Marine Ernould, paru le 25 mai 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard.
Cycliste, êtes-vous bien protégé par vos assurances? Un texte de Clémence Pavic paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir. L'été est là et les pistes cyclables sont bondées. Un dépassement dangereux, une manœuvre hasardeuse. Et vous pourriez être impliqué dans une collision entre vélos. Des pertes matérielles aux frais médicaux, les conséquences peuvent parfois coûter cher. Êtes-vous bien protégé par vos assurances? Dans le cas d'une collision impliquant un véhicule motorisé, la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, va indemniser pour les dommages. On ne regarde pas qui est responsable, c'est-à-dire si c'est la voiture ou bien le vélo qui est en tort. C'est un régime qui est sans regard à la faute, rappelle Benjamin W. Polyfort, avocat en droit civil au cabinet Lambert Avocat. La SAAQ ne couvre pas la perte de votre vélo, mais elle peut vous indemniser pour vos blessures, vos soins et votre perte de salaire. Or, dans le cas d'une collision entre des vélos ou entre un vélo et un piéton, la SAAQ ne couvre pas pour ces dommages. Habituellement, les gens sont couverts par une assurance habitation qui comprend un volet pour la responsabilité civile, fait valoir M. Polyfort. Pas de responsabilité civile? La responsabilité civile sert à couvrir les dommages matériels et blessures corporelles qu'on cause à autrui, souligne Dominique Larouche, conseillère en assurance de dommages chez CAA Québec. On aimerait ça dans un monde idéal que tout le monde soit couvert pour la responsabilité civile, mais ce n'est pas le cas, ajoute-t-elle. Selon des données du Bureau d'assurance du Canada, environ 30 % à 35 % des locataires québécois, soit le tiers d'entre eux, ne possèdent pas d'assurance habitation. Si un cycliste n'a pas d'assurance responsabilité civile, il s'expose alors potentiellement à des poursuites en cas d'accident et il devra sortir les fonds de ses poches s'il est responsable, souligne M. Polyfort. Or, les frais peuvent grimper vite en fonction de la gravité d'une collision. Les demandes de dédommagement peuvent comprendre les frais pour le déplacement en ambulance, les soins dentaires, les séances avec physiothérapeute, les pertes salariales. Vous pouvez envoyer une mise en demeure à la personne qui est fautive et lui dire de la faire suivre à sa compagnie d'assurance pour réclamer ses dédommagements, sinon c'est à elle de vous rembourser, explique M. Polyfort. Si vous roulez avec un vélo électrique, que vous allez vite, le danger est plus grand. Alors ça peut être très risqué de ne pas être assuré, estime Mme Larouche. Une indemnisation pour tous les usagers? Au Québec, il n'existe pas de données sur le nombre de collisions entre vélos ou entre vélos et piétons, déplore Jean-François Roux, PDG de l'organisme Vélo Québec. Les dommages qu'on peut faire en vélo sont plus limités par rapport à ceux qu'on peut faire en voiture, mais les risques sont tout de même présents, dit-il. Selon les données de Vélo Québec, 9 cyclistes sur 10 paient pour un permis de conduire. Donc, ils paient pour le fonds d'indemnisation de la SAEQ. Mais s'ils ont une collision entre vélo ou avec un piéton, ils ne sont pas assurés, fait valoir M. Roux. Ce qui nous choque un peu, c'est l'idée qu'une personne qui décide de prendre son vélo, donc de faire un choix de mobilité avec beaucoup d'externalités positives, se retrouve moins bien protégée que lorsqu'elle prend sa voiture, ajoute-t-il. Dans un mémoire déposé en février 2024, Vélo-Québec a renouvelé sa demande au gouvernement du Québec d'élargir la portée du régime public d'assurance automobile à l'ensemble des victimes de la route. Questionné à ce sujet par Le Devoir, le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, indique avoir bien reçu cette demande et que celle-ci est toujours en analyse. L'étude de cette proposition demeure toutefois au stade embryonnaire, précise le cabinet. Toujours pas de balise pour les vélos électriques. Vélo électrique ou scooter? Sur les pistes cyclables, les usagers doivent cohabiter, à leur risque et péril, avec certains véhicules électriques qui s'apparentent davantage à des motos qu'à des vélos. Même s'il est question depuis plus d'une décennie de bannir les scooters électriques des pistes cyclables, Québec n'a toujours pas légiféré à ce sujet. En février 2024, Vélo-Québec reprochait au gouvernement du Québec d'avoir trop tardé à réviser et resserrer la définition de véhicules à assistance électrique afin, prioritairement, d'en exclure les engins de type motocyclette et cyclomoteur. L'organisme reproche au gouvernement Legault de ne pas avoir réglé ce problème dans son récent projet de loi 48 visant à modifier le Code de la sécurité routière, adopté en mai 2024. L'incertitude plane quant à la prochaine occasion de s'attaquer à ce flou juridique qui nécessitera vraisemblablement de modifier à nouveau le Code de la sécurité routière, déplorait Vélo-Québec en février 2024. Au Devoir, le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, se justifie en expliquant que le projet de loi 48 apportait un éventail de modifications visant à renforcer la sécurité routière, notamment pour les usagers vulnérables comme les enfants et les travailleurs de chantier. Le gouvernement a ainsi tranché qu'il était plus bénéfique pour la sécurité des Québécois de déposer le projet de loi rapidement plutôt que d'attendre que les travaux sur les vélos à assistance électrique soient terminés. Ces travaux progressent bien, indique le cabinet, refusant cependant de s'avancer sur un calendrier. C'était « Cycliste, êtes-vous bien protégé par vos assurances ?» un texte de Clémence Pavic, paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir.
Campagne pour une pelouse du futur. Un texte de Sarah Champagne, paru le 15 avril 2024 dans La Presse. Ce n'est qu'une question de jours avant que nos pelouses ne soient complètement vertes. La Fondation David Suzuki lance une campagne afin que nos espaces gazonnés aient moins de répercussions sur la qualité des eaux, de l'air et des sols. Elle a choisi Montréal, Laval, Sherbrooke et Saint-Jérôme pour inciter les citoyens à penser autrement leur carré vert et les municipalités à agir. La pelouse dans tous ces États. Est-ce qu'on a trop de pelouse au Québec? On en a effectivement un peu trop, estime Maxime Fortin-Faubert, un expert stagiaire en écologie urbaine de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, qui a collaboré à l'étude de la Fondation David Suzuki. Le rapport « Partage ta pelouse », rendu public le 11 avril 2024, est le fruit d'un travail de 2 ans en collaboration avec l'organisme Nouveaux Voisins, visant à identifier le potentiel vert de la province en transformant les pelouses. On avait très peu de données sur les pelouses. C'est un écosystème très complexe. C'est vrai qu'on parle souvent du défi de la tondeuse et de laisser pousser les pissenlits au mois de mai. On pense qu'on peut facilement transformer une partie de nos espaces gazonnés en ajoutant des arbustes, des plantes indigènes, des prés fleuris et, pourquoi pas, en aménageant des aires de repos, explique M. Fortin-Faubert. Ne pas culpabiliser. Afin d'arriver à ces conclusions, des experts de la Fondation et de l'INRS ont entrepris de cartographier les surfaces végétales basses, dont majoritairement des graminées, des municipalités de Montréal, Laval, Sherbrooke et Saint-Jérôme. Des analyses de résolution satellite ont été menées, les pixels décortiqués. Alexandre Huet est responsable de la mobilisation citoyenne et de l'engagement du public à la Fondation David Suzuki. Il explique que les quatre villes ont été choisies en raison de la diversité de la taille et de la population. Notre objectif avec ce rapport n'est pas de culpabiliser les gens, mais plutôt de tracer un bilan. Lors de la COP15, conférence de Montréal de 2022 sur la biodiversité, il y a eu beaucoup d'effervescence autour des pelouses. Il s'agit de la plus grosse monoculture au Québec. Et dans le contexte des changements climatiques, où il faut réduire la consommation d'eau, des engrais et des pesticides, on croit qu'il était temps de tracer un bilan. Proportion de pelouses estimées pour les quatre villes. Source Fondation David Suzuki. Sherbrooke, 8,2%, 28,9 km². Saint-Jérôme, 13%, 11,8 km². Laval, 14,7%, 35,5 km². Montréal, 19,5%, 96,5 km². Règlements municipaux. Forte de ces données, la Fondation David Suzuki estime que les municipalités ont un rôle important à jouer. Selon les experts qui ont participé à l'étude, les municipalités pourraient modifier des règlements. Par exemple, il est reconnu que les pissenlits ont des bienfaits pour la pollinisation des fleurs. En conséquence, les citoyens ne doivent pas sortir la tondeuse trop vite au mois de mai. Il faudrait assouplir l'encadrement concernant la hauteur de la végétation, estime la Fondation. L'organisme rappelle que l'Union des municipalités du Québec, UMQ, proposait en 2022 dans un rapport sur le climat d'abolir les hauteurs maximum pour le gazon. Elle suggérait plutôt un minimum de 20 cm pour préserver la fraîcheur en été et éviter l'arrosage excessif. À la ville de Sherbrooke, un règlement précise qu'un propriétaire ne doit pas laisser pousser la végétation sur son terrain à une hauteur excessive, sans préciser la hauteur maximale. À la ville de Laval, un vieux règlement a été modifié en 2023 pour permettre d'adhérer au mouvement « mais sans tondeuse », en retirant des limites de hauteur sur les terrains du 1er mai au 30 mai inclusivement. Les pesticides. Il reste toute la question des pesticides. À l'heure actuelle, près de 160 municipalités du Québec en réglementent l'usage. Sur le territoire de la ville de Montréal, il est interdit depuis 2022 de vendre et d'utiliser des produits qui contiennent au moins un des 36 ingrédients nocifs, dont le glyphosate. La mesure vise à inciter les jardiniers et passionnés des belles pelouses à se tourner vers des pesticides moins toxiques, ou mieux, vers des biopesticides. Dans la même veine, la Fondation David Suzuki recommande aux municipalités de mieux encadrer les tondeuses. On cite l'exemple de la Californie, où la vente des petits équipements à moteur à essence, dont les tondeuses, est interdite pour prévenir la formation de smog. Enfin, les auteurs du rapport espèrent que les données sur les pelouses inciteront les entrepreneurs en aménagement paysager à proposer à leur clientèle des projets innovants intégrant la biodiversité. C'était « Campagne pour une pelouse du futur », un texte de Sarah Champagne paru le 15 avril 2024 dans La Presse.
L'écran comme récompense en maternelle, un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 avril 2024 dans La Presse. C'est l'histoire d'une mère qui ne comprend pas trop pourquoi, dans la classe de sa fille, la tablette est utilisée comme récompense. En fait, elle ne comprend pas pourquoi la tablette est même présente. La fille d'Élodie Bertelier est en maternelle. Je ne vais pas nommer l'école en question. Je ne vais pas nommer le prof. Je vais leur éviter l'embarras. De toute façon, le problème que je vais décrire transcende ce prof et cette école. Ça démontre à quel point la présence du numérique en classe dans cette province relève du grand n'importe quoi. Je cite le courriel qu'Élodie Bertelier m'a envoyé. Ils ont associé tablette et récompense. Chaque jour, un élève vedette peut jouer à la tablette matin et après-midi. Il a le droit de choisir des amis pour le regarder. La tablette est donc présente tous les jours, matin et après-midi. Les jeux auxquels les enfants jouent sont soi-disant éducatifs. Courir sur des rails et éviter de se faire attraper par la police n'a rien d'éducatif, selon moi. Madame Bertelier étudie en neuropsychologie. Elle est au fait des études qui montrent qu'il faut limiter au maximum le temps d'écran chez les enfants, à plus forte raison quand ils sont d'âge préscolaire. Elle a donc décidé de demander des explications à l'école à l'automne 2023. La directrice lui a cité le plan d'engagement vers la réussite que chaque centre de service scolaire doit produire. Je suis allée le lire. Si on y trouve une quelconque justification de l'utilisation de la tablette comme récompense à la maternelle, je ne sais pas lire. Le prof a d'abord dirigé Madame Bertelier vers sa directrice. La mère a insisté auprès du prof en lui disant qu'au-delà de son opinion à elle, de celle du prof, les faits sont les faits. Et si vous le souhaitez, je peux vous envoyer de nombreuses études sur les effets négatifs des écrans. Les parents ont perdu le contrôle des écrans sur les enfants, a-t-elle ajouté. Ils les visionnent suffisamment chez eux. Le cerveau des jeunes enfants a besoin de vraies expériences et du monde réel pour se développer. En intégrant la tablette au préscolaire et en l'associant à l'élève vedette, l'école envoie un message contradictoire. J'en connais et j'en vois assez sur le sujet pour malheureusement être déçu et triste que dès l'âge de 5 ans à l'école, l'écran soit présent. Durant deux périodes de jeu libre, chaque jour, un enfant perd une opportunité de connexion avec les enfants de sa classe, mais aussi de bouger davantage. J'ai lu ça et je me suis dit, tout est là. Tout ce que les spécialistes disent et craignent à propos des tablettes, préoccupations que je relais dans cette chronique depuis quelques semaines, est résumé de façon splendide par Madame Bertelier. Le besoin qu'ont les enfants de jouer dans le réel, face à face, est essentiel à leur développement. Ce temps de jeu est cannibalisé depuis quelques années par le temps d'écran, ce qui serait néfaste à leur développement cérébral et social. Est-il utile que l'école ajoute au temps passé devant les écrans? Le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre depuis 40 ans, a livré dans cette chronique un vibrant plaidoyer pour le jeu dans le réel, loin des écrans. Il prescrit même des débranchements à certains enfants. La Société canadienne de pédiatrie a pris position pour une réduction importante du temps d'écran chez les enfants et contre l'utilisation passive d'une tablette. Un adulte devrait être présent. Tout le contraire de ce qui se passe dans cette classe de maternelle. L'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, a publié récemment une synthèse, un état des lieux des connaissances scientifiques, qui montre que le numérique n'apporte rien de vraiment positif, tout le contraire, pour l'apprentissage chez les moins de 25 ans en contexte éducatif. Bref, le fait que le numérique devrait être utilisé avec parcimonie chez les enfants, que plus ils sont jeunes, moins ils devraient être exposés à des écrans. Tout cela est connu, si on se donne la peine de chercher. Je reviens au grief d'Élodie Berthelier. Le prof a fini par envoyer une réponse à son conjoint, où il justifie l'utilisation de la tablette dans sa classe de maternelle. Il a cité 12 raisons. Les voici, ça vaut la peine de les citer au long. 1. Que l'enfant soit capable de reconnaître des nombres au tableau afin d'accéder au code de la tablette pour avoir accès au jeu. 2. Que l'enfant soit capable de tenir convenablement la tablette lors des déplacements afin d'éviter un bris de la vitre. 3. Que l'enfant soit capable de monter et de descendre le volume. 4. Que l'élève soit capable de faire des choix de jeu selon ses intérêts ou ce qu'il veut explorer. 5. Que l'enfant soit capable de se choisir un ami pour l'accompagner. 6. Favoriser l'entraide et la socialisation. 7. Que l'enfant soit capable de fermer la tablette après son utilisation afin de ne pas vider la batterie. 8. Augmenter l'estime de soi lorsque l'élève réussit à passer au niveau suivant. 9. Que l'enfant utilise sa créativité dans certains jeux proposés. 10. Que l'enfant apprenne à reconnaître et à tracer avec son doigt les lettres de l'alphabet et les chiffres. 11. Que l'enfant soit capable d'écouter des histoires interactives et de réaliser des défis à la hauteur de ses capacités. 12. Que l'enfant soit capable de s'arrêter lorsque le temps de jeu est terminé, alors que sa partie n'est pas terminée. Tenir convenablement la tablette sans l'échapper. Augmenter l'estime de soi par la réussite d'un niveau. Se souvenir d'éteindre la tablette. Être capable de se choisir un ami. Aïe aïe. J'avoue avoir été soufflée par la vacuité de ces explications. J'ai donc envoyé cette réponse au docteur Chiquan, un expert, pour voir si j'étais dans le champ. Sa réaction? Il décrit des opérations techniques insignifiantes. Le bout sur le volume comme acquis pédagogique serait un poème s'il ne signifiait pas si bien le four éducationnel dans lequel nous nous trouvons. C'était « L'écran comme récompense » en maternelle, un texte de Patrick Lagacé, paru le 28 avril 2024 dans la presse.